Candide et les experts. Une émission produite par Monique Fauché.
Les médias, que ce soit La Croix, Le Monde, Le Figaro, la radio, la télévision, ont annoncé à grand bruit une baisse inquiétante du niveau scolaire des élèves français. Est-ce une annonce politique, plus ou moins récurrente? Est-ce tout à fait exact, puisqu'une enquête PISA, Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes, une enquête de l'OCDE, conclut que malgré tout, les jeunes entre 16 et 34 ans ont une maîtrise des compétences en littérature et numératie bien supérieure à celle des plus de 55 ans. Et hop, voilà les anciens relégués au fond de la classe. Que croire? Qui croire? Patrick Coste s'est particulièrement intéressé à ce sujet pour lequel il est particulièrement compétent quand on connaît son parcours professionnel. Il a été cadre du ministère, professeur de philosophie, proviseur, conseiller technique du recteur. Mais ne devrais-je pas commencer par le commençant en disant qu'il est issu de feu l'école normale d'instituteurs? Il vient d'écrire un ouvrage intitulé « Éducation face à l'impossible » aux éditions Delga. Patrick Coste, bonjour.
Bonjour et bonjour aux auditeurs.
Voilà, je ne me suis pas trompée dans l'énumération de vos
noms.
J'en ai oublié probablement.
C'était parfait.
Bon, alors, vous avez beaucoup de choses à nous dire sur le sujet qui préoccupe certains parents actuellement. Mais d'abord, parlez-nous de vous. Cette émission intitulée « Candide et les experts » fait appel à des experts. Pouvez-vous nous dire en quoi vos différentes fonctions vous permettent d'avoir une vision particulièrement perspicace et étendue sur notre enseignement français?
Alors, tout d'abord, bon, effectivement, si on fait le compte sur nos doigts des missions qui ont été les miennes dans l'éducation nationale, j'ai exercé 6 métiers, de premier degré, second degré, de l'encadrement au rectorat, etc. Et beaucoup en formation aussi continue des enseignants. Alors, l'intérêt d'abord, c'est de dire que quand on change d'activité, c'est pas tant les compétences et les savoirs qui comptent. Ce qui est important quand on change de travail, c'est la mutation de positionnement que l'on a. On n'est pas dans la même perspective. Si on regarde la Terre depuis Vénus, ou si on la regarde depuis la Lune, elle n'apparaît pas de la même manière. Et les changements de position développent cette sorte d'héliocentrisme, finalement, par rapport à des contextes. Bon. Et là, il y a une institution qui est formidablement compliquée, qui est gigantesque dans son volume. C'est la plus grosse entreprise de France. Et le fait d'être passé par plusieurs sédiments me permet finalement d'enrichir les perspectives par rapport à la compréhension. Et c'est une illustration, mais d'être passé par le premier degré, le collège, parce que j'ai été principal de collège, puis j'ai été proviseur de lycée, j'aurais presque envie de dire que j'ai une interprétation qui était une interprétation généalogique du processus de croissance des élèves. Et à chaque sédiment, il y a des problèmes qui se posent et nous sommes là pour en parler. Ensuite, le bilan que vous avez présenté en introduction sur les chiffres. Oui, il y a une baisse des résultats considérable, mais qui est internationale. C'est-à-dire que la France se situe dans une baisse des niveaux que l'on retrouve dans tous les pays développés.
Et à la limite, moindre qu'en Allemagne, par exemple.
Alors, ça dépend des disciplines, mais la France, en particulier, accuse le coup sur la question des inégalités de résultats. Parce que là, on est dans la situation qui se situe au pire dans le monde.
Alors, on en parlera peut-être un autre jour.
Oui, bien sûr.
vous êtes allé également en zone rurale et en ville. Et alors là, il y a des différences aussi.
Alors, sur les zones, il faudrait rajouter une troisième, qui est la zone sensible. J'ai travaillé dans les quartiers difficiles, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui les REP et les REP plus, qui sont en général situés dans les cités difficiles, mais aussi à certains endroits dans les zones rurales. Et on voit effectivement des différences de résultats selon les zones, bien sûr, et y compris, c'est indiqué par votre question, Monique, il y a une différence de résultats entre les zones urbaines et les zones rurales, indéniablement. Et il y a des raisons, bien sûr.
Ah oui. Oui, ça serait intéressant justement d'approfondir ces raisons. Parce qu'à la limite, on se dit que les zones rurales sont peut-être plus paisibles que les zones urbaines. Est-ce que c'est le cas?
Alors, je crois que ça, une des explications tient pas à des questions de climat scolaire qui ferait cette différence de résultats. Mais je crois qu'il faut plutôt renvoyer au capital culturel qu'il peut y avoir entre la zone urbaine et la zone rurale.
Quoi qu'en zone urbaine, ça peut être variable aussi.
Et donc, s'il y a des secteurs difficiles, on va être carrément dans la zone du pire, dans la hiérarchie des codes culturels. Mais s'il y avait un ordre à définir, en termes de résultats, on aurait urbain, rural et zone difficile, en décroissant, bien sûr.
De toutes vos activités liées à l'enseignement, on vient de parler de vos différentes activités, quelle est celle qui vous a appris le plus de choses? Vous allez me dire toutes, peut-être.
Alors, c'est une question qui me prend au vif, de dire celle qui m'a appris le plus, parce que j'ai été professeur de philosophie, ce qui était une discipline qui comportait d'abord un engagement presque d'amour pour ce qui me concerne, par rapport à la discipline, où il y avait une finalité qui était une finalité sur le plan culturel qui était très digne. Mais j'aurais presque envie de dire, et c'est paradoxal par rapport à mes intérêts personnels, mais ce qui m'aurait peut-être appris le plus, c'est le travail de CPE, parce qu'on ne l'a pas cité, j'ai été conseiller principal d'éducation en zone sensible. Et là, le fait de me retrouver avec ces enfants-là, dans ces milieux-là, m'a obligé à me changer. Du point de vue, j'étais un intellectuel, presque comme une sorte de, en philosophie, comme
surtout, un... vous veniez de l'enseignement de
philosophie. Oui, j'avais enseigné la philosophie. D'accord. Pour des raisons diverses, j'avais fait ce choix-là. J'étais dans une pensée très très hermétique de Heidegger, 24 heures sur 24, et je me retrouve dans ce milieu, et là j'ai été obligé de revenir au sol. Et sur la compréhension des contextes, du fonctionnement de l'institution par rapport à ces difficultés-là, il a fallu d'abord, moi, sur le plan personnel, que je me transforme, que je m'adapte. Et j'ai presque envie de dire que j'ai renoué, de par ce travail sur ce contexte-là, à des dimensions politiques, au sens où j'étais dans un rapport au social, et où il fallait que je construise du commun qui était largement détruit. Et me retrouver dans cette situation-là m'a obligé à me fabriquer autrement par rapport à cette position.
Je dirais, il me semble, non seulement par rapport aux jeunes que vous aviez, à leur famille, mais également par rapport aux enseignants qui étaient dans ces différents domaines.
Là, de toute façon, c'est à plusieurs niveaux, parce que je vais témoigner. Quand je suis arrivé dans ce contexte, je n'en croyais pas mes yeux, en termes de situation explosive. C'était une situation il y avait de la violence. J'ai vécu des scènes avec des revolvers, avec des grands couteaux. Enfin, aujourd'hui, ça ferait la une des médias, les expériences en question. Donc j'étais très décontenancé par rapport à ça. Et j'ai observé par du travail qu'on pouvait pacifier les rapports. Donc ça, si vous voulez, ça a été quand même une expérience.
D'écouter et de pacifier, non ?
Alors, le résultat positif était, sur le plan des comportements de civilité, une amélioration par rapport au travail que l'on faisait. Par contre, sur le plan de la transmission des savoirs, l'échec était entier. Voilà. Donc, j'ai pu observer, évidemment, comment les uns et les autres étaient susceptibles d'intervenir par rapport à ça. Et donc, il y a des bons comportements sur ces situations et d'autres qui sont moins bons. Et donc, ça fait partie aussi de mon propre apprentissage par rapport à cette observation dans une situation difficile. C'est une vraie expérience.
Alors, votre livre, justement, fait part de cette expérience, mais le titre, l'éducation face à l'impossible, n'est-ce pas pessimiste, une cause perdue ?
Alors, je crois que c'est un peu une figure méthodologique de parler d'impossible. Vous savez, chez Descartes...
À l'impossible, nul n'est...
Voilà, chez Descartes, il met le doute dans une sorte d'extrémité pour rebondir sur la raison. Et là, j'ai porté les analyses jusqu'à leur extrémité d'impasse dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, de telle manière à poser les problèmes à nouveau frais. Et en posant les problèmes à nouveau frais, je me suis donné une perspective de suggestion
que nous verrons.
Et d'alternative, si vous voulez, d'accord, aux impasses dans lesquelles on se trouve.
Ces suggestions que nous verrons à la fin de nos rencontres. Merci Patrick Coste, merci, et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine.
Merci Monique.